On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On fait le match 18e de la saison comme chaque samedi soir. Le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics, vous le savez. À partir de 20h, ce sera l'heure de RTL Foot avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Nice-Lyon. La seconde période de Marseille-Reims, alors que dans le match de 17h actuellement, eh bien Metz mène devant Lens par 1-0. 74 minutes de jeu à Saint-Symphorien. RTL Foot avec Durand, 30 minutes et en loge VIP. Frédéric Thirier, bonsoir.
Bonsoir.
Ex-président de la Ligue du football professionnel, candidat déclaré à la présidence de la Fédération française de football, dont les élections auront lieu en mars prochain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour vous interroger jusqu'à 19h, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir
Dominique.
Bonsoir
tout le monde.
Le Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire des week-ends sports sur l'antenne de RTL. Et puis à 19h, nous rejoindrons Baptiste Després du Figaro et Cindy Colmenares, la voix sud-américaine dont fait le match. Pour les débats du soir, on ne change pas une équipe qui gagne. Lille, est-ce un rachat crédible? Benzema est-il le meilleur attaquant de l'histoire du foot français? Quelle trace va laisser Gérard Houllier, notre ami Gérard, disparu cette semaine? Et le craquage d'André Villas-Boas, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? On fait le match, vous le savez, filmé sur RTL.fr ou alors via l'application et ses podcasts. Vos messages relayés par Baptiste Durieux sur Twitter, @RTLFoot. A tout de suite, vous écoutez RTL Foot et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Frédéric Thirier est donc notre invité jusqu'à 19h. 68 ans, avocat auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Président de la Ligue du foot professionnel de 2002 à 2016. Président de l'Association des Ligues européennes de 2013 à 2016. Dernière activité en date chargée d'une mission sur les carrières dans la haute fonction publique. Où en êtes-vous? Vous allez faire disparaître l'ENA, Frédéric Thirier?
La décision, elle relève du président de la République. Moi, j'ai remis mes propositions qui tendait non pas à la disparition de l'ENA, mais à une réforme profonde de l'ENA, à différents regroupements d'écoles, à des scolarités communes, à un accès plus large à tous les talents de la République. Il faut que le gouvernement maintenant se prononce, et je crois qu'il travaille dessus.
Et c'est précisément le président de la République qui vous a missionné, effectivement. Quelques soucis de santé, vous avez des nouvelles du président de la République, Emmanuel Macron?
J'apprends les nouvelles par vous.
Vous revenez dans le football, mais finalement vous ne l'avez jamais quitté, ce football. Vous connaissez vos deux surnoms, Frédéric Thirier? Moustache.
Alors, je suis sûr qu'il y a moustache, hein, oui.
Et puis parfois Monsieur Communiqué également. Car lorsque vous étiez à la tête de la Ligue du football professionnel, alors vous êtes un excellent orateur. Vous préfériez communiquer par voie de communiqué précisément que de prendre la parole. C'est bizarre.
Ah, c'est curieux. Bah, voyez, aujourd'hui, donc j'ai dû changer puisque je m'adresse à vous et je vous en remercie.
Et le plaisir est partagé. Alors, les élections à la Fédération, ce sera pour le 13 mars 2021. Vous êtes en frontal face à Noël Le Graët. Il a un mauvais bilan?
Mais c'est étonnant, cette question. Je ne me présente pas contre Noël Le Graët. D'ailleurs, on ne sait pas si Noël Le Graët sera candidat. Moi, je me présente contre personne. Je me présente pour un projet. Et parce que j'y crois. Je respecte le silence de Noël Le Graët. C'est sa décision. Quelle que soit sa décision, je la respecterai. Mais en ce qui me concerne, j'avance parce que j'ai envie d'y aller. Parce que le football va mal. Je dirais même très mal. Et que je veux prendre ma part dans sa reconstruction.
Eh bien, avec Dominique Sévrac et Philippe Sanfourche, vous allez nous parler de votre programme. Philippe Sanfourche.
Alors, Monsieur Thirier, quand vous nous dites que le football va mal, on connaît tous évidemment la situation globale dans laquelle se trouve notre pays, le monde plus généralement. Mais justement, qu'est-ce qui est imputable au bilan de Noël Le Graët et qui fait que vous pourriez opérer une inflexion de manière positive sur ce bilan?
Non mais d'abord, ne me parlez pas de Noël Le Graët. Pour l'instant, moi, je vous présente mon projet.
Mais vous êtes une alternative.
La crise.
Si vous vous présentez, c'est pour offrir une alternative. Donc, quelle est-elle?
Eh bien, je vais vous en parler. La crise que nous vivons aujourd'hui, elle est en grande partie imputable à la crise sanitaire, mais pas seulement. J'insiste là-dessus. Le football amateur est en crise depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et c'est là le cœur de mon projet. Il y a longtemps que nos clubs souffrent, qu'ils manquent de moyens, qu'ils manquent de soutien, aussi bien de la part de la fédération que de la part des pouvoirs publics. Or, le foot amateur, je suis désolé, c'est le cœur du football. Le cœur du football. D'où viennent tous nos joueurs professionnels? D'où viennent nos joueurs formidables de l'équipe de France? du football amateur. Dans le foot, c'est très différent de la société française. C'est la masse qui fait l'élite. Donc, le cœur de mon projet, c'est le football amateur. Frédéric,
Dominique Sévrac.
Là, c'est le constat. Le 13 mars, vous êtes élu. Le 14 mars, pendant les 100 jours, trois mesures spectaculaires qui changent la face du football français.
Première mesure, venir en aide aux clubs amateurs qui ne vont pas passer l'hiver.
Comment ?
Ou qui risquent de ne pas passer l'hiver.
Concrètement.
Concrètement. Premièrement, exonération de charges sociales pour les clubs amateurs employeurs. Il n'est absolument pas juste que l'exonération de charges sociales soit réservée aux seuls clubs professionnels.
Ça, ça se discute avec Bercy, ça.
Mais précisément. Mais le rôle
donc
de la fédération...
Ça va passer dans les 100 jours. Ça va passer dans 100 jours.
Le rôle du président de la fédération, c'est aussi de défendre le football vis-à-vis des pouvoirs publics, pas toujours de subir.
Oui, mais donc ça ne sera pas immédiat. Frédéric, ça ne sera pas immédiat.
Actuellement, le football subit.
Alors, exonération des charges sociales, Frédéric Thériault. Deuxième mesure.
Ensuite, je pense qu'il faut suspendre pendant 6 mois les prélèvements fédéraux sur les clubs.
Ça c'est vous.
Les prélèvements fédéraux, les clubs. On parle beaucoup de l'argent qui est distribué par la fédération aux clubs amateurs. Il existe. Mais on oublie trop souvent que les clubs amateurs payent des sommes aux instances fédérales sur les licences, sur les amendes, sur l'organisation des compétitions, etc. Je veux que tout ceci fasse l'objet d'un audit financier indépendant où l'on prenne tous les flux financiers qui partent de la Fédé aux ligues régionales, aux districts, puis aux clubs amateurs dans les deux sens.
Et la fédération, elle souffre comme toutes les boîtes. Elle a moins de rentrées que d'habitude, donc vous enlevez encore des rentrées.
La fédération a moins de rentrées. Elle a heureusement une situation financière saine. D'ailleurs, c'est un point positif du bilan de Noël Le Graët.
Oui, vous en parlez, Noël Le Graët.
Puisque vous tenez à parler de Noël Le Graët, c'est au moins un point à l'actif de son bilan. Ensuite, j'ai d'autres mesures.
La troisième mesure. Suspension des charges sociales, suspension des prélèvements fédéraux.
Et la troisième mesure.
La troisième, c'est l'aide à la billetterie.
C'est-à-dire ?
Comment se fait-il que les aides gouvernementales à la perte de billetterie, la compensation de la perte de billetterie, n'aillent pas aux autres clubs nationaux que sont, par exemple, la Nationale 1, la Division 1 féminine, la Division 2 de futsal.
En même temps, il n'y a pas de billetterie actuellement.
Mais
cette mesure, elle sera également... vous ne pourrez pas l'appliquer au 13 ou au 14 mars.
Alors, je me suis peut-être mal expliqué. Mais comment peut-on justifier que ces clubs de D1 féminine, par exemple, ou de D1 futsal, qui continuent leur championnat, ils jouent à huis clos, ne bénéficient pas de l'aide à la billetterie qui bénéficie aux clubs professionnels. Ça n'est absolument
pas logique. C'est concrètement pour le grand public qui nous écoute, c'est-à-dire l'aide à la billetterie.
C'est une subvention de l'État pour compenser le fait que les matchs se jouent à huis clos alors que vous avez des frais d'organisation importants pour chaque match.
Elle existe déjà, cette aide à la billetterie.
Mais pour les clubs professionnels seulement et pas, par exemple, pour la D1 féminine ou la D1
futsal. Ça règle l'urgence, Frédéric. Là, c'est toutes vos mesures, l'urgence, ça règle le mal-être. Mais est-ce que c'est...
Mais vous me parliez des mesures d'urgence.
Oui. D'accord.
Après, dans mon projet, il y a deux choses, s'agissant du foot amateur. Il y a ce que vous appelez les mesures d'urgence, ce que j'appelle, moi, le plan de sauvetage du football amateur.
Okay.
Et puis, il y a après... le plan de développement du football. Alors ça, je veux bien vous en parler.
On y va.
Parce qu'on ne peut pas se borner à un plan de sauvetage. Il faut voir le moyen terme. Et je vais partir d'un constat, encore une fois. Il n'y a pas de remède sans un constat sérieux. Le constat, c'est que si la France est devenue un grand pays de football, c'est incontestable. Grâce aux équipes de France, grâce à Didier Deschamps, grâce à Corinne Diacre, aux filles, etc. Nous sommes totalement en retard au niveau du développement de la pratique du football en France. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre n'ait que 2 millions de licenciés. Je suis désolé. On se glorifie d'avoir 2 millions de licenciés. Il y en a 7 en Allemagne, 8 en Angleterre. Comment l'expliquez-vous ?
Et alors, comment on développe ?
Philippe
Sanfourche.
Est-ce qu'on ne mélange pas un petit peu, j'ai envie de dire, trivialement, les oranges et les bananes là ? Parce que quand on a 7 millions de licenciés en Allemagne, vous prenez cet exemple, ce n'est pas du tout le même système qu'en France. On sait qu'en Allemagne, par exemple, il suffit d'avoir joué au football un an dans le cadre scolaire. On obtient une licence que l'on va conserver à vie.
Je vous réponds tout de suite. Il y a effectivement des modes de comptage différents. Mais alors, je vais raisonner différemment. Savez-vous combien il y a de gens qui pratiquent le football en France ? Je dis bien qu'ils pratiquent. Ben, je vais vous dire. Entre 4 et 5 millions. Entre 4 et 5 millions. On n'a que 2 millions de licenciés. C'est ça qu'il faut changer.
Oui, mais alors,
il faut que les gens adhèrent à la maison commune. Pourquoi ils ne se licencient pas ? Parce qu'on n'a pas su s'adapter aux besoins des jeunes.
Et ils veulent davantage de liberté, ceux qui jouent dans les fives, les mini-terrains, etc.
C'est exactement ce que je
ils
pense.
Ils ne veulent pas être licenciés.
Mais attendez, mais ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que la fédération ne leur apporte que des contraintes et pas des services. Et la fédération ne sait pas s'adapter à l'évolution des goûts des jeunes. Les gamins de 16-18 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est jouer au football quand ils veulent, et où ils veulent, et avec qui ils veulent. C'est le foot à 5, c'est le futsal, mais il faut s'adapter à cette situation.
Et donc on crée des terrains, puisqu'il faut aussi pour
jouer. Eh bien, c'est le deuxième aspect de mon plan de développement du football, c'est un plan ambitieux d'investissement dans les équipements sportifs de proximité, cofinancé par l'État, les collectivités locales et la Fédération française de foot. Construction de terrains synthétiques avec éclairage pour qu'on puisse utiliser beaucoup plus. Construction surtout de mini-terrains, parce que c'est indispensable, et construction de gymnases. Là, on a un plan de relance. Le gouvernement a un plan de relance qui s'élève à 100 milliards. Je n'arrive pas à croire que sur ces 100 milliards, on ne puisse pas consacrer 1 ou 2 milliards à un plan d'investissement en équipement sportif de proximité qui, en plus, va créer de l'emploi.
Mais Frédéric, pour ceux qui nous écoutent, la limite de votre plan d'urgence ou de revitaliser le football français, il peut se heurter au fait qu'il y a beaucoup d'interventions de l'État dans ce que vous dites. Il va beaucoup falloir aller discuter avec Bercy, avec les cabinets, pour avoir une part des 100 milliards, pour avoir des subventions. Or, on sait que c'est long en France. On sait qu'il y a une forme de bureaucratie et on sait qu'on n'obtient pas tout ça.
Mais alors, vous avez aujourd'hui des assurances.
Je reviens sur le rôle d'un président de fédération. Enfin, un président de fédération sportive, d'abord, il est délégataire de la puissance publique. C'est-à-dire qu'il représente le gouvernement dans sa discipline sportive. Mais un de ses rôles majeurs, c'est d'aller voir les ministres, le Premier ministre, pour discuter des choses dont ils ont besoin. Quand j'ai été président de la Ligue professionnelle, une bonne partie de mon temps consistait à aller faire les antichambres, les ministères, pour obtenir des mesures que d'ailleurs j'ai obtenues généralement.
On est dans un pays où en mars on a arrêté le championnat de France de division 1, division de Ligue 1, de Ligue 2.
Et on y reviendra dans un instant.
Si vous voulez, dans un pays où la pratique du foot n'est pas non plus la priorité.
Si vous voulez qu'on parle de ça, j'en parlerai bien volontiers.
On y reviendra dans un instant. Vous avez une vision très sociale finalement. C'est un peu le paradoxe, Frédéric Thirier.
Mais
vous avez été le patron du football professionnel. Vous vous êtes même créé quelques inimitiés avec ce football amateur. L'épisode Luznac, faut-il le rappeler pour le grand public,
On en parlera de Luznac, j'ai rien à vous cacher.
Luznac qui a mérité sur le plan sportif son accession et sa participation au championnat de France de Ligue 2 et pour des histoires administratives et de tribunaux, Luznac n'a pas obtenu gain de cause. On vous en a voulu beaucoup et le football amateur n'a pas oublié, Frédéric Thirier.
Alors, est-ce que je peux être très clair sur l'affaire Luznac pour qu'on l'évacue définitivement ?
Allez-y.
Moi, cette affaire Luznac m'a fait mal, je vous avoue. Parce que, comme vous le dites, les joueurs et les supporters pensaient avoir gagné le droit de jouer en Ligue 2. Seulement, voyez-vous, dans le football, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, il y a des règles. Et notamment, il y a des règles d'accession au monde professionnel. Des règles financières, des règles sociales, des règles techniques. Notamment, avoir un stade. Il se trouve que Luznac ne répondait pas à ces conditions. Notamment, on avait... Non, mais attendez... De toute façon,
ne répondait pas dans un premier temps, mais s'est mis en conformité dans un second temps.
Non, absolument pas. Absolument pas. Et l'affaire, maintenant, elle est terminée, puisque le Conseil d'État a jugé définitivement que Luznac ne pouvait pas accéder en Ligue 2. Donc, je veux bien qu'on me fasse des reproches sur l'affaire Luznac, mais le Conseil d'État a donné raison à la Ligue. J'en suis désolé. Mais c'est comme ça.
Frédéric Thierry, notre invité exceptionnel jusqu'à 19h. On refait le match. À partir de 19h, la suite, évidemment, d'On fait le match avec tous les débats. Il y a un match en direct, Frédéric Thierry, et qu'on suit, évidemment, 90 minutes de jeu. Et Metz mène face au Racing Club de Lens sur le score d'un but à zéro. La suite de cette émission spéciale VIP Loge Frédéric Thierry, qui se présente à la candidature de la présidence de la Fédération française de football. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
En compagnie également de Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Philippe Sanfourche pour RTL, notre invité jusqu'à 19h, Frédéric Thierry, qui se présente à la candidature à la présidence de la Fédération française de football. Ce sera en mars 2021. L'aspect social, donc l'ancien président du monde professionnel qui se met désormais au service du monde amateur, Frédéric Thierry. On a parlé du développement que vous souhaitiez mettre en place. Vous avez parlé également d'une société fracturée, et en parlant du foot amateur, vous avez parlé de ciment. Néanmoins, le communautarisme, néanmoins, les prières dans les vestiaires, la discrimination, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez également là des grandes lignes d'un projet qui pourrait remettre tout le monde à l'endroit.
Le football aujourd'hui est devenu effectivement le ciment de la société. Le sport en général, et le football en particulier, parce que c'est le plus populaire de tous les sports. Jamais on ne reconnaîtra suffisamment la responsabilité sociale extraordinaire du football, dans les quartiers, dans les zones rurales défavorisées. Grâce à quoi ? Grâce au maillage territorial que font nos 15 000 clubs. C'est une responsabilité sociale énorme qui pèse sur nous. On vit dans une société qui est profondément fracturée, je le disais. Il faut absolument développer le football amateur pour cela, indépendamment de la question des compétitions, parce que le football, c'est le plus beau sport, parce que ça fait rêver, parce que c'est la masse qui fait l'élite. Mais il faut qu'on soit fier du rôle social du foot, qui n'est pas aujourd'hui reconnu en tant que tel par les hommes politiques.
Philippe Sanfourche.
Frédéric Thierry, question très, très simple. On a évoqué la fin du championnat, l'arrêt brutal du championnat la saison passée. Et je vous ai entendu dire que le football subit la crise sanitaire depuis le début. Vous l'avez dit avec force. Avec Frédéric Thierry à la tête de la Fédération française de football, est-ce que le championnat se serait arrêté ?
Alors, avec des si, on pourrait faire un monde, mais je vais vous dire, il ne se serait pas arrêté. Pourquoi ? La France a-t-elle arrêté son championnat alors que tous les pays environnants continuaient leur championnat ? Il y a là quelque chose d'inexplicable. D'inexplicable. Je crois que j'ai été assez clair sur ce point.
Le monde politique n'a pas été suffisamment alerté, n'a pas été suffisamment sondé, les explications n'ont pas été suffisamment claires.
Je dis que depuis quelque temps, le football subit et qu'il est temps qu'il arrête de subir et qu'il prenne l'initiative. Et c'est bien mon intention si je suis élu.
Est-ce que ça veut dire que Roxana Maracineanu, ministre de la Jeunesse et des Sports, notamment pour le foot et d'ailleurs pour les autres sports, n'a pas suffisamment défendu son ministère ? On se souvient de cette petite phrase, le sport n'est pas prioritaire ?
Ce n'est pas mon rôle d'attaquer
le sport n'est pas prioritaire, vous êtes d'accord avec ça ?
Mais bien sûr que non, le sport est prioritaire, comme d'ailleurs la culture. Et j'ai d'ailleurs écrit récemment un article sur ce thème qui disait « Sport et culture, même combat », parce que l'homme n'est pas qu'un tube digestif. Il est aussi un esprit et un corps.
Dominique Sévrac.
Mais pour aider nos auditeurs, peut-être décrypter ce que vient de dire Frédéric, il y avait un sous-texte, il y a un coup de fil qui n'a jamais été démenti entre le président Macron et le président de la Fédération française actuelle, M. Le Graët, au moment de savoir s'il fallait reprendre ou pas reprendre. Et M. Le Graët était de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas reprendre. Donc voilà, il me semble qu'il a validé, la Fédération française actuelle, a validé la direction actuelle, la présidence actuelle a validé l'arrêt du championnat. La fédération, elle marche sur deux jambes, Frédéric. Elle marche sur le foot amateur et elle marche sur l'équipe de France. Didier Deschamps, il reste si vous êtes élu le 14 mars ?
Évidemment.
Parce qu'il est fusionnel avec le Graët.
Non, mais attendez. Mais si vous me demandez mon avis sur Didier Deschamps, j'ai avec lui des liens d'admiration et de respect depuis de très nombreuses années. Bien avant qu'il soit nommé sélectionneur de l'équipe de France, j'avais dès 2008 rêvé de lui comme sélectionneur de l'équipe de France. Donc, évidemment il va, si je suis élu, il va rester et il sera même conforté et il restera autant de temps qu'il le veut. Et
avec, donc, avec un contrat. Un contrat.
Bien sûr, et un contrat.
Quoi. Mais autant de temps, donc un contrat.
Et bien
contrat
sûr,
à vie, alors,
moyennant l'approbation du comité exécutif de la fédération.
Et vous arriverez à tisser la même relation qu'il a avec Noël Le Graët ?
J'en suis convaincu.
Le football français connaît des soubresauts, on en a parlé, football amateur, football professionnel, arrêt du championnat. Il y a une affaire terrible qui secoue actuellement le foot français, c'est Mediapro. Quel qualificatif vous donneriez-vous à cette histoire ? Un fiasco total, un échec industriel, une erreur de débutant ? Comment vous jugez cette affaire ?
Alors, pour une fois, vous me gênez parce que je ne peux pas répondre. Je vais vous dire pourquoi je ne peux pas répondre. J'ai décidé de quitter la Ligue après 14 ans de présidence parce que je trouvais que 14 ans, ça suffit. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai dit à l'époque, pour laisser la place à de nouveaux dirigeants. Depuis que je suis parti, je me suis interdit, mais je dis bien interdit, de faire le moindre commentaire ou la moindre appréciation sur l'action de mes successeurs. Moi, je déteste les gens qui, une fois partis, s'amusent à critiquer leurs successeurs. Ça n'est pas du tout ma mentalité. Donc, je ne porterai aucun jugement sur l'affaire Mediapro. Et mon jugement, je le garde pour moi-même. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que, pour l'instant, la nouvelle équipe de la Ligue, avec Vincent Labrune et ceux qui l'entourent, ont fait un parcours sans faute. Je dis bien sans faute. Il a réussi à sortir la Ligue du piège, du contrat avec Mediapro. J'espère que le tribunal de commerce l'approuvera, j'en ai pas de doute. Il a réussi donc à récupérer les droits sans faute. Maintenant, il faut à nouveau les commercialiser. S'il y a un homme qui est capable de sortir la Ligue Pro de cette grosse difficulté, c'est Vincent Labrune.
Et vous êtes d'ailleurs très proche avec Vincent Labrune.
On est très proche depuis
longtemps.
Est-ce
que le ticket Labrune à la Ligue et Thierry à la Fédération n'est pas fait justement pour aller combattre le programme que n'a toujours pas d'ailleurs proposé Noël Le Graët, néanmoins ?
Non, en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on est liés d'amitié, Vincent Labrune et moi, depuis longtemps, et que si je suis élu président de la Fédération, il y aura entre les deux présidents une entente parfaite et dans le respect de l'identité des deux instances.
Dominique Sévrac.
On sait que le football féminin est au cœur de votre projet. On sait que vous êtes accompagné par Basile Boli. Est-ce qu'on pourra avoir le nom d'une femme qui vous accompagnera ?
Dominique, je vous promets que vous l'aurez bientôt, car je vais prendre...
C'est important de savoir à qui vous êtes.
Mais il y en aura même plus qu'une.
Bah hein, oui, parce qu'il en faut. Hein,
je pense qu'il en aura, il y en aura même plus que trois.
Vous êtes obligé de nous en donner une.
Mais je ne vais pas vous donner mon 11 de départ. Deux mois avant le coup d'envoi du match, je donnerai ma liste lorsqu'elle sera au point, en temps utile, c'est-à-dire le 13 février.
Et alors, sur l'esprit de la liste, il faut qu'elle soit...
Alors, je vais vous dire l'esprit. Je veux que cette liste, et c'est pour ça que j'y travaille beaucoup, soit à l'image de mon projet. C'est-à-dire le terrain, la diversité et la mixité. Ce seront mes trois mots d'ordre pour cette liste.
Philippe Sanfourche.
Actualité aussi sur la structuration, les finances des clubs. On s'aperçoit, on l'a vu avec l'actualité lilloise cette semaine, que les clubs français sont désormais muets par une vraie révolution dans la façon, le mode de fonctionnement, de rachat d'actionnaires qui rachètent de la dette. Noël Le Graët a des qualificatifs assez forts quand il parle de ces systèmes-là. Il parle d'acrobates de la finance. Est-ce que vous assumez ça ? Vous pensez que c'est la voie qu'il faut prendre pour renforcer le football français, ou il faut poser des jalons, il faut faire attention.
Réponse courte, s'il vous plaît, Frédéric Thierry.
Ça, c'est le monde d'avant dont vous me parlez. La France est un pays ouvert aux investissements étrangers depuis toujours. Est-ce que l'arrivée du Qatar a été une mauvaise chose pour le football français ? Bien évidemment que non. Donc nous sommes ouverts aux investissements étrangers. Après, il y a évidemment des conditions, et ça, c'est la DNCG qui en est chargée, d'être garante, je dirais, de l'honorabilité, hein, de l'origine saine des fonds qui arrivent, et bien sûr de la pérennité du projet. Mais oui, aux investissements étrangers dans le football, la France est un pays ouvert.
Frédéric Thierrier, on va en rester là. On vous remercie de...
Déjà.
Et déjà, vous voulez rester derrière les informations de 19h ? Mais alors attention, s'ajoutent à l'émission deux autres chroniqueurs et chroniqueuses. C'est comme vous voulez. Frédéric Thierrier, vous nous avez parlé de vos premières mesures. Allez, si vous êtes élu le 13 mars, la toute première mesure, pas le 14, le 13 mars.
remettre en route la machine. Je parle cette fois du siège de la fédération, avec un audit et une démarche participative associant tous les salariés à une réflexion sur les missions, les moyens et les hommes.
Pourquoi la fédération ne marche pas ?
Mais vous savez très bien qu'en ce moment, la fédération est traversée par une crise violente au niveau des salariés. Donc il faut que la machine fonctionne.
Merci beaucoup Frédéric Thirier de nous avoir rendu visite. Demi-heure, on fait le match, loge VIP et rendez-vous un peu plus tard pour la suite donc de cette opération campagne.
Est-ce que vous m'autorisez à avoir un tout petit mot pour Eugène ?
Eugène Saccomanno ?
Eugène Saccomanno, avec qui j'étais vraiment lié d'amitié. Et être à cette émission, ça me remplit à la fois de tristesse et de joie.
Merci d'y avoir pensé, Frédéric Thirier. À très bientôt sur l'antenne de RTL. Bientôt 19h, les informations et la suite d'On fait le match, toujours avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, avec Cindy Colmenares et Baptiste Després du Figaro. Restez avec nous, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h, 20h, 23h, toute l'équipe d'RTL Foot pour la suite du programme et avec notamment un délicieux, on peut l'imaginer comme cela, délicieux Nice Olympique Lyonnais. Et puis il y aura également la seconde période de Marseille-Reims. Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir.
Car Marseille-Reims, le coup d'envoi a été donné il y a 5 minutes environ.
Exactement, toujours 0-0 entre les deux équipes. 4-4-2 losange pour les deux formations. Les Rémois qui jouent dans un sémillant maillot orange fluo ici au Stade Vélodrome, avec des Marseillais qui vont tenter de retrouver le chemin de la victoire après leur défaite à Rennes cette semaine.
On revient dans un instant pour parler d'André Villas-Boas. Merci Hugo. Autre match, celui de 17h, mais a battu Lens par 2-0 et en Ligue 2 cet après-midi, Clermont a battu le Paris FC 3-2 et Toulouse s'est imposé face au Havre. Excellent match de football, un match de Ligue 2 mais qui valait très largement un match de Ligue 1. Toulouse a battu le Havre sur le score de 4-3. Dominique Sévrac, parisien aujourd'hui en France, est toujours avec nous.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Philippe Sanfourche également. Rebonsoir. Et plaisir. Arrive dans ce studio Cindy Colmenares, la voix ensoleillée, la voix sud-américaine dans Fait le match. Bonsoir Cindy.
Bonsoir.
Et Baptiste Després pour le Figaro. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir, moins ensoleillé.
Ouais,
je suis désolé.
Eh oui, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Alors, les amis, Frédéric Thirier, dans une émission spéciale qui se présente à la candidature de la Fédération française de football. Ce sera le 13 mars prochain, 13 mars 2021. Petit débrief avant de parler de l'Olympique de Marseille. Vous en avez pensé quoi, Philippe Sanfourche ?
Moi, je retiens quand même, même s'il se défend de vouloir attaquer le bilan de Noël Le Graët, il dit très clairement que s'il avait été à la tête de la fédération la saison passée, le championnat ne se serait pas arrêté. C'est une attaque frontale. C'est le début de la campagne mano à mano.
Il a qualifié la présidence de Noël Le Graët de monde d'avant. À une de tes questions, il a dit ça, c'est le monde d'avant. On voit très clairement qu'il se positionne en réformiste et il veut être le candidat moderne face à celui qu'incarnerait depuis 10 ans. D'ailleurs, il dit qu'il faut rester 10-14 ans dans une place. Hein. Si Le Graët est réélu, là, ça ferait.
Il a fait 14 ans à la tête de la Ligue, donc il peut difficilement aussi.
Ça lui ferait 14
ans. De 2002 à 2016, effectivement.
Voilà. Et là, si Le Graët est réélu, ça serait jusqu'en 2025. Et il va avoir 79 ans dans une semaine, Le Graët. Il aurait 83 ans à la fin de son mandat. On voit bien que Frédéric Thirier va aussi jouer là-dessus.
Baptiste Després.
Sans le dire, sans l'attaquer, comme dit Philippe sur Noël Le Graët, il dit que le football doit arrêter de subir, notamment par rapport à la Ligue 1 et puis plein d'autres choses. Il a énormément axé sur le football amateur, avec pas mal d'aides allouées. Dans un premier temps, c'est une question de Dominique sur ces trois mesures phares. Moi, j'attends de voir sa relation avec les politiques. Quand on voit le traitement du football en France depuis quelques mois, avec les aides, etc., que ce soit par le ministre ou l'exécutif, j'ai un peu de mal à croire qu'en quelques semaines, ce soit réglé.
Cindy Colmenares.
Ça se base effectivement beaucoup sur des subventions et espérons qu'il y en ait. Après, il y a quelque chose qui m'a marqué à un moment. À un moment, vous avez posé la question sur le SNAC, mais il faut savoir qu'au Conseil d'État, ils ont finalement donné raison dans le sens où le SNAC aurait dû passer en Ligue 2.
Donc il dit le contraire.
J'étais un peu surprise par rapport à ça. Et sinon, je trouvais, il faut le dire aussi, très classe de ne pas faire les bilans sur les personnes qui sont venues après à l'LFP. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant de le faire.
Donc, il n'aurait
mais
pas
il a arrêté la Ligue 1 sur ses points faibles. Dominique. On sait que le monde amateur est un peu en guerre contre la directrice générale, pas contre Noël Le Graët, mais contre Florence Sardouin.
Florence Sardouin, directrice générale de la Fédération française de football.
C'est là qu'il attaque un petit peu. Et puis sur la réorganisation de la Fédération, on sait que là aussi, Florence Sardouin suscite quelques critiques en interne. Elle aura un management un petit peu dur, on va dire. Et donc, il y a des services qui sont un petit peu en ébullition. Donc voilà, il joue sur ces points-là en disant aux salariés de la Fédération, avec moi, ça ira mieux. mais ce n'est pas eux qui votent. Mais et il dit au monde amateur, avec moi, vous aurez de l'argent.
Bah, il est obligé de jouer sur les faiblesses affichées par la Fédération. Bah,
dans la mesure où sportivement, c'est inattaquable, qu'au niveau financier, les partenaires sont là depuis des années, le contrat avec Nike, il est exemplaire, il n'y a pas une fédération qui a réussi.
Les comptes sont
au
bons.
Passage, ce qu'il oublie peut-être de rappeler, c'est que sur les 50 millions annuels, il y en a 5 qui sont reversés au monde amateur. Donc, il y a quand même déjà des choses qui sont faites pour le football amateur. Et par expérience, pour avoir déjà vécu quelques élections à la Fédé, souvent le monde amateur profite des mois qui précèdent dans la campagne pour se rappeler au bon souvenir des dirigeants, pousser un petit coup de gueule. Mais au moment du vote, souvent, c'est 80% pour Noël Le Graët.
Cindy.
Après, il y a une partie aussi qui vient du soutien populaire. Et c'est vrai que cette question sur le snack a laissé des traces, même si on essaye de plier l'affaire comme il essaye justement de le faire. Mais voilà. Et après, je considère que les efforts de la Fédé avec les 30 millions alloués au football amateur ne sont pas négligeables.
Après, quand on sait qu'une élection n'est jamais jouée, hein, Baptiste, parce que tout le monde voyait Michel Denisot plutôt succéder à Nathalie Bois de la Tour il y a quelques mois, et c'est Vincent Labrune que personne n'avait vu arriver.
Et il est très ami avec Vincent Labrune.
Il le dit clairement, parce que Cindy le disait qu'il n'attaquait pas le précédent mandat de la LFP, donc Bois de la Tour Kio. Mais par contre, pour Vincent Labrune, ils sont quand même très très amis, vous l'avez dit pendant l'entretien. Et Vincent Labrune fait un travail exceptionnel depuis qu'il est arrivé, etc. Donc on verra.
L'axe Labrune.
Complètement, il le vend clairement. Il le dit pas comme ça parce que c'est un politique, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, qui manie bien les mots. Mais il le vend comme ça. Une question de Dominique aussi sur un autre sujet, sur la relation Deschamps-Le Graët. Vous suivez tous l'équipe de France ici. Je vous souhaite bon courage d'avoir une relation aussi forte entre lui et le sélectionneur.
Et il a l'intention de lui signer quasiment un contrat à vie, a dit Deschamps. Hein.
Il commence déjà à faire la campagne.
Bon, et focus sur le football amateur, on l'a bien compris, avec des mesures. Mais là, il est en campagne électorale. On rappelle ces mesures, hein, l'exonération des charges sociales, la suspension des prélèvements fédéraux. C'est-à-dire, on fait payer moins cher les licences, etc. Et une aide à la billetterie. Là, j'ai pas bien compris.
Ça fait longtemps qu'il en rêve.
Dans la mesure où il n'y a pas de spectateur.
La fédération, il en rêve depuis longtemps. Il avait deux, quand il était président de la Ligue, Frédéric Thierry, il avait deux visées. C'était ou le ministère des Sports, ou la présidence de la fédération. Là, il est sur un de ses deux rêves.
Il n'a pas évoqué les conseils des sages. C'est quelque chose qui fait partie aussi de son projet, notamment l'effet d'avoir des anciens internationaux.
C'est vrai, on ne lui a pas posé la question d'ailleurs.
Voilà. C'est un point qui peut être intéressant d'avoir enfin des personnes qui
connaissent. Et trois femmes sur scène.
Ça peut aussi être un artifice de campagne, de communication.
Il en faut quatre.
Par le passé, on se souvient qu'il y a eu comme ça, je me souviens autour de le Club France, des choses autour qui n'ont pas empêché Nice pour autant, et où il y avait des sommité du foot français, mais qui finalement avait assez peu de pouvoir. C'était plus une question de communication qu'autre chose.
Mais sur l'arrêt de la Ligue 1, il a planté quand même quelques banderilles. Et Noël Le Graët, je pense, se chargera de répondre d'ici quelques semaines.
Et donc Le Graët qui avait dit qu'il ne connaît rien au football, en parlant de Frédéric Thierry. Donc là, ça promet d'être chaud.
On a eu la délicatesse de ne pas lui poser la question. Est-ce que vous confirmez que vous connaissez rien? Effectivement, trois femmes, il en faut quatre sur la liste, mais je pense qu'il a déjà les trois noms des trois premières femmes.
Je pense.
Et suspense donc pour Fernandez ou pas, mais je pense qu'il va essayer de le rallier à sa cause. On a tout dit sur ce débrief, Frédéric Thierrier, messieurs, 19h, madame, mademoiselle, 19h12, le match Marseille-Reims, quasiment, pas tout à fait le premier quart d'heure de jeu, Hugo Hamelin.
Ouais, on a dépassé les 10 premières minutes, 13e exactement ici au Stade Vélodrome, toujours 0-0 entre les deux équipes, une alerte de chaque côté, ce sont les Rémois qui ont tiré en premier avec Chavalérin, une frappe enroulée qui s'est envolée au-dessus de la barre transversale de Steve Mandanda, et puis un coup franc de Dimitri Payet également, qui était dangereux, ce sont plutôt les Marseillais qui domine dans cette rencontre.
On va rester quelques instants avec toi, Hugo, et tu peux participer au débat avec l'une des questions dont fait le match André Villas-Boas, s'en est pris à un journaliste de la Provence cette semaine après la défaite contre Rennes, avec des paroles, mais en tout cas une prise de parole et un échange en conférence de presse qui aurait pu en rester là, mais qui s'est terminé, si les auditeurs n'ont pas suivi toute cette actualité-là, qui s'est terminé sur le parking du stade, où quasiment le journaliste et Villas-Boas ont été front contre front. La question de ce soir, est-ce que le craquage d'André Villas-Boas, finalement, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop?
Moi, je remercie l'Olympique de Marseille parce que j'ai l'impression de rajeunir cette semaine. Ils sont attaqués à l'arbitre. Ils sont attaqués donc au fait que c'était les arbitres les méchants. C'est eux qui leur font perdre des points. ça évite de se poser des questions sur son système de jeu, sur ce qu'on propose. Et ils sont allés essayer de taper des journalistes. Ça, c'était il y a 20, 30 ans qu'on se comportait comme ça. Dans votre sommaire, Christian, vous vous êtes demandé si on en faisait trop. Je pense que c'est eux qu'on fout un peu trop. Allez, si on en vient maintenant dans le football, qui est une activité ludique, je sais bien qu'il y a une forte pression, mais si on en vient à être front contre front avec des journalistes, pour moi, c'est la fin de tout. Vous voyez des députés à l'Assemblée nationale être front contre front?
Ah, il y en a qui se sont provoqués en duel, cher ami.
Mais d'accord, mais là,
dans une clairière.
Je sais bien que l'époque est bizarre.
Au lever du soleil.
On est en 2020, Christian.
Hein. Oui, bien sûr. Mais ce craquage, ils n'en sont pas venus aux mains. Je voudrais pas non plus qu'on
Parce
ait
qu'ils
une attitude.
Ont été séparés aussi.
Oui, mais je voudrais. Je voudrais pas qu'on ait une attitude trop corporatiste également, parce que je vois bien l'attitude de ceux qui nous écoutent en disant vous défendez un confrère. Il s'agit pas de ça.
Je le connais pas, mais.
En tout cas, je pense que peut-être c'est comme ça qu'il l'a vu, quand il a lu ses communiqués de presse, qu'il était en train de lire, que d'ailleurs il a bien montré.
Il s'est excusé,
mais bon, alors il y a s'excuser et s'excuser. Quand on a quelqu'un qui lit un communiqué de presse et qui puis montre qu'il va passer ses communiqués de presse alors qu'il aurait pu très bien les garder dans les mains.
Oui, mais ça, il y a peut-être la question de la langue aussi, Cindy.
Non, mais qu'il croise les bras. Au bout d'un moment, on s'est dit, il aurait fallu que quelqu'un dans son service de communication lui explique qu'il n'était pas en train forcément de s'excuser uniquement avec ces journalistes-là. Avec les raisons ou les raisons qu'il n'en a pas, mais à la profession, parce que rien ne peut justifier qu'on s'attaque comme ça à une profession. Et une autre chose qui me paraît importante, c'est le fait qu'Andrés Villas-Boas, c'est les jours et la nuit. Mmh. On l'avait tellement flatté au début avec ses résultats. Et puis aujourd'hui, on voit un autre visage.
Tout à fait. Exact. Hugo Hamelin, il faut rappeler donc Andrés Villas-Boas, Hugo Hamelin, n'a pas apprécié un article de La Provence.
Exactement, ça se joue en trois temps. C'est-à-dire qu'il y a un article sur son bilan en Coupe d'Europe, notamment où on parle du Zénith Saint-Pétersbourg, donc par ce journaliste de La Provence avant Manchester City. Le coach André Villas-Boas réplique après la conférence de Manchester City, dit qu'il n'a pas apprécié l'article, donc c'est en visio devant tout le monde. Il réitère ses propos après le match contre Nantes, donc il y a déjà ces deux alertes. Et puis là, il y a un billet d'humeur qui est publié par ce journaliste de La Provence, qui est assez offensif, c'est vrai, mais qui reste tout à fait dans le cadre de la liberté d'expression, aucun problème là-dessus. Et c'est là-dessus que André Villas-Boas pète les plombs. C'est pas une question posée en conférence de presse après Rennes qui fait péter les plombs André Villas-Boas, c'est quelque chose qu'il a lu le matin même dans le journal, parce qu'il faut savoir que lui, il lit tout, il écoute tout ce qui se dit sur lui.
L'aristo de Porto.
Voilà, notamment, mais il y avait d'autres choses sur son orgueil. Si, parce qu'il a des origines aristocratiques. C'est
et
pour
alors,
ça.
André, faut qu'il les assume.
Non, mais quelque
voilà,
part.
Exactement. Je termine juste. C'est pas quelque chose de corporatiste que de défendre la liberté d'expression, que de défendre la liberté de la presse. C'est tout à fait normal. André Villas-Boas, il avait d'autres manières de répliquer. Il aurait pu porter plainte. Il aurait pu demander un droit de réponse. Et c'est assez honteux, effectivement, qu'il en arrive
et
là.
Et rester surtout sur le ring à la limite de la conférence de presse. Avec l'échange verbal.
Tout à fait.
Pourquoi il en parle, en fait? Parce que s'il n'en parle pas, moi, je n'ai pas lu ce billet.
Je l'ai lu,
je l'ai trouvé moi, bien écrit. Bon, chacun jugera, moi, je l'ai trouvé bien écrit. Je ne connais pas ce journaliste, je ne lui ai jamais parlé de ma vie et je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai trouvé ça marrant, bien écrit. Il y avait aussi Dédé l'énervé, il y avait quelques formules qui étaient bien tournées. Mais s'il n'en parle pas, je ne suis au courant de rien. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne lis pas La Provence.
Il est sous pression.
Oui, c'est ça, en fait, ça.
Il s'en fourche, il est sous pression. Il a déjà eu des problèmes avec Galtier, l'entraîneur de Lille. Il y a eu des problèmes avec Dimeco, consultant Altice.
Ça révèle surtout ça, effectivement. C'est-à-dire, Cindy l'évoquait tout à l'heure, le personnage Villas-Boas, lorsqu'il est arrivé, tout le monde était sous le charme. Les supporters de l'OM, ses confrères.
Il organisait des matchs pour
presse,
les journalistes.
Tout le monde.
Alors, ça, à contrario, les journalistes n'étaient peut-être pas obligés d'accepter les invitations de Villas-Boas.
Voilà, faut pas oublier dans le parcours d'André Villas-Boas qu'il y a encore quelques mois, il mettait la pression. En gros, c'était si vous voulez que je reste, il va falloir me donner plus de pouvoir, plus de joie. Bon. On a le sentiment que finalement il est resté, mais un peu par défaut, et qu'aujourd'hui il a des comportements qu'il n'aurait pas eu au début et qu'il n'aurait peut-être pas s'il était dans un club, je dirais aujourd'hui, de dimension un peu supérieure à celui de l'Olympique de Marseille. Donc je ne dis pas qu'il ne respecte plus le club, mais à tout le moins, il n'a plus le même comportement qu'au début.
Mais ça, comme le dit Philippe, ça démontre Hugo Hamelin.
Il est un peu seul, Philippe, tu as raison. On n'a pas du tout entendu le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault. Et dans ses excuses, André Villas-Boas a dit qu'il avait eu au téléphone Franck McCourt directement. Donc c'est un lien McCourt André Villas-Boas qui se dessine maintenant. Donc c'est, ça veut dire qu'à Marseille, il est.
Ça, c'est une information, effectivement. C'est une information. Le président Hérault est squeezé sur un tel incident. C'est une information. Baptiste Després.
Le président Hérault, déjà, on ne le voit plus quand même depuis quelques semaines, même quelques mois. Mais pour revenir sur Villas-Boas, ça démontre quand même une vraie crispation. Et puis vous disiez tout à l'heure qu'il est arrivé à Marseille, tout allait bien. Il jouait quand même sur du velours. Il est arrivé avec Rudy Garcia qui s'était fait éjecter, qui était haï par les supporters. Donc c'était aussi positif pour lui. Après, il faut se rappeler ses expériences, notamment en Angleterre ou même en Russie. Ça s'est pas super bien passé avec la presse, avec les médias. Il y a toujours des moments où ça coince là comme ça. Mais là, je trouve que s'il va faire tête contre tête avec un journaliste après deux papiers, comme le dit Dominique, il n'y a pas non plus péril en la demeure, ça démontre quand même que psychologiquement, c'est très difficile pour
lui.
Allez,
voilà pour le dossier Villas-Boas. On fait le match avec Baptiste Després, que vous venez d'entendre, avec Cindy Colmenares, Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche au Vélodrome. Toujours 0-0 entre Marseille et Reims, Hugo.
Toujours 0-0, 20e minute de jeu.
On se retrouve après la page de publicité pour parler de Lille. De Marseille, on passe à Lille avec cette question. Lille, est-ce un rachat crédible ? A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Et retour au stade Vélodrome avec du nouveau tableau d'affichage, Hugo Hamelin.
Terrible perte de balle de Dimitri Payet au milieu du terrain. Zenelli qui s'en empare, qui va fixer, qui va centrer sur le côté gauche. Et Nagatomo, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui va pousser le ballon dans ses propres filets en tentant une majeure défensive. C'est n'importe quoi. Et ça trompe Steve Mandanda. 1-0 pour le stade de Reims, qui était déjà venu s'imposer ici au stade Vélodrome la saison dernière. Première journée, 21e minute de jeu. Ce sont donc les Champenois qui mènent 1-0 face à l'OM.
Oh, le but contre son camp. Un commentaire, madame.
Aucun journaliste n'est appliqué dans ce but.
Non, hein. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, Dominique Sévrac. Carton jaune. Voilà. 19h21, antenne ouverte pour ce match Marseille-Reims. On file à Lille. Lille, est-ce un rachat crédible ? Alors, rappel des faits, mais très rapidement. Vente négociée depuis au moins 8 semaines. Elliott vend à Merlin Partners, qui est un conglomérat de banques luxembourgeois. Gérard Lopez doit prendre la porte de sortie. Luis Campos également, qui recrutait beaucoup pour Gérard Lopez. Il y avait 200 millions d'euros d'emprunt. Une centaine a été remboursé. Il y a du cash qui va venir avec cette nouvelle holding. Il y a un nouveau président, c'est Olivier Létang. Mais la lisibilité, la visibilité du projet n'est pas encore très très claire. Vous me direz, ça a été signé hier. Est-ce un rachat crédible ?
Je pense surtout qu'on a dégagé Gérard Lopez. Je pense que le fonds Elliott qui avait cédé des parts à Gérard Lopez a découvert qu'il y avait quelques problèmes dans la gestion de l'hispano-luxembourgeois. C'est sa nationalité, il a une double nationalité. Et donc, je pense qu'on a retiré de la présidence Gérard Lopez et son conseiller Luis Campos, qui n'était plus à Lille depuis quelques mois déjà. Donc, je pense que c'est ça qui se trame depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est crédible ? Moi, je ne connais pas Merlin, je ne sais pas comment on dit.
L'ancien Merlin.
On verra dans quelques mois. Je ne peux pas vous dire, c'est sérieux, je ne connais pas.
L'ancien propriétaire a visiblement été effrayé par la crise économique, par Mediapro, par l'absence de public, par des joueurs que Lopez actuellement ne vendait pas, ou moins cher. Ceci explique cela.
On est typiquement dans le cas de figure où on s'aperçoit qu'on est dans le jeu de la finance et que tout ce qui fait la finance est retranscrit dans cet exemple-là. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, l'élection aux États-Unis, le cours de la bourse, il n'évolue pas forcément positivement ou négativement selon l'identité du candidat qui est élu. C'est-à-dire que ce soit Biden ou Trump, finalement... l'économie va s'en remettre. Ce qui ne va pas dans ces cas-là, dans la période qui précède, c'est l'incertitude. Et une fois que les choses sont claires, l'économie s'adapte. Et là, la période d'incertitude, elle est liée à la crise sanitaire, ce qui est déjà très lourd, et est venue se greffer l'affaire Mediapro. Donc le foot français aujourd'hui est une somme d'incertitudes qui font que les investisseurs veulent récupérer de l'argent ou avoir des garanties. Il ne faut quand même pas oublier que Gérard Lopez était actionnaire majoritaire avec seulement 20%. Et que le fonds Elliott, en fait, c'est lui qui dirige le LOSC, alors qu'il n'en est pas actionnaire. C'est comme une banque qui a racheté de la dette. Ce qui veut dire aujourd'hui que à Lille, il peut tout se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Létang va arriver en nous disant le projet sportif reste le même, on ne va pas vendre de joueurs. Mais dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, ça peut changer du tout au tout. Si
alors,
le fonds
je maintiens
Elliott
les informations qu'on avait données il y a 48 heures. Olivier Létang, président et pas actionnaire, président salarié. Pas de vente immédiate de joueurs. D'ailleurs, ma source m'a même cité un joueur. Bamba, pas question de le vendre.
Cet hiver ?
Voilà, mais cet hiver.
Eh ben, on en reparlera à la fin du mercato. On en reparlera à la fin du mercato parce que je suis à peu près persuadé que la raison pour laquelle Gérard Lopez n'est plus là, c'est parce que le remboursement dont vous parliez, les 200 millions, tarde à être remboursé. Et à un moment donné, il n'y a plus de rentrée. Donc
mais
il faut vendre.
Non, mais il y a les 50 millions que Merlin va injecter. Et normalement, ça devrait les permettre, en tout cas, d'échanger un peu les caisses qui sont en difficulté.
Trois mois, six mois.
Après, la réalité aussi, c'est que je pense qu'il y a effectivement une pression de l'investisseur américain qui s'est dit voilà, je ne vais pas pouvoir récupérer, surtout
mais
avec
ça dénote les limites de ce modèle-là, finalement. Quand vous basez votre projet, alors je grossis le trait, mais sur le trading où vous achetez un joueur 5 millions, vous allez le revendre 25, mais le problème, c'est que vous avez des grains de sable avec le Covid et avec Mediapro. Derrière, votre château de cartes, tout s'écroule.
Mais même avant ça.
Et c'est ce qui se passe. Et là, Olivier Letang, j'ai rien contre lui en tant que dirigeant. Derrière, après le fonds Merlin, j'attends de voir ce que ça va être. Mais aujourd'hui, le projet lillois est illisible.
Mais les capacités de Letang, déjà, ils font pas question, vraiment, il a des qualités reconnues. Moi, je vais vraiment parler.
Ah, mais tu peux avoir les meilleures qualités si derrière tu vends pas ton joueur 40 si tu l'avais acheté 15. Ça
oui,
sera compliqué.
Non, mais
de
après, par rapport à cette histoire des trading, moi j'étais parmi celles qui, au contraire, étaient toujours en train d'applaudir le fait que les stratégies du LOSC étaient gagnantes grâce à ces trading-là parce que ça leur permettait d'avoir des bons joueurs. Vous voyez très bien que sportivement, les LOSC, il est premier des Ligue 1. Il y a tout qui roule sportivement.
Et après,
il y a eu cette situation.
Oui, parce qu'il y avait Campos qui a un œil formidable. Là, il ne sera plus là.
Et puis, comme mais on ne peut pas dire que les modèles ne fonctionnaient pas. Il a fonctionné
Il fonctionne que si le monde va bien. Mais si un grain de sable, c'est fini.
La situation qu'on a vécue est quand même assez exceptionnelle.
Si vous prenez les bilans comptables de Lille, avant Covid, avant crise sanitaire, c'est moins 64 millions de résultats nets par an. Alors que c'est un club qui a vendu pour 400 millions sur les dernières années. C'est le club européen qui a fait le plus de ventes.
Dont Osimhen, la dernière vente.
Et vous n'aurez pas tous les ans Nicolas Pépé ou Osimhen à vendre à ces sommes-là. Donc c'est un modèle qui va dans le mur.
Et c'est un modèle que tout le monde veut copier dans le football français.
C'est un modèle visiblement qui va se modifier. Hein. C'est ce que nous disent également les sources.
Le modèle trading
de Gérard Lopez ne sera pas le nouveau modèle.
Mais j'attends qu'à Marseille, à Bordeaux, ailleurs, on veut faire pareil.
Bien sûr, à confirmer. Baptiste Desprez disait que ce projet était illisible, ce nouveau projet. Disons que courtoisement, il manque d'un peu de lisibilité. D'autant que d'ailleurs, la DNCG, Direction Nationale Contrôle de Gestion, c'est une information qui est tombée en fin de journée. Convoque rapidement et de nouveau le nouveau propriétaire dès le 4 janvier pour avoir et des éclaircissements sur les 50 millions annoncés vers ses caches et pour savoir quelle est la politique sportive et économique que ce nouveau propriétaire va adopter dans la vente ou pas des joueurs.
Le timing est terrible, Christian, parce que là, il y a un mercato qui arrive et Lille est en tête. Ils reçoivent Paris dimanche. Ils peuvent accroître leur avance en se débarrassant du Paris Saint-Germain sportivement. Donc c'est quand même terrible parce qu'on ne sait pas si dans deux semaines, Lille aura les mêmes joueurs. Et ce n'est pas seulement dû au mercato, c'est aussi dû au fait qu'on change d'actionnaire. Tout ça me paraît complètement fou.
Au mercato hivernal, selon les sources quand même assez fiables, il n'y aura pas de vente de joueurs.
J'espère pour eux, pour Lille, que ce qu'on vous a dit est évidemment...
Mais normalement, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Mais si on propose 50 pour Bamba, 60, 100 millions pour Bamba, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a une question à court moyen terme, avec Christophe Galtier qui était en conférence de presse tout à l'heure avant le match contre le Paris Saint-Germain demain. La question, alors forcément, il ne voulait pas parler de l'actualité, mais une question un peu détournée d'un confrère qui disait notamment sur son contrat qui court jusqu'en 2022. Et lui disait, quand on décrypte un petit peu, c'est on va voir à l'usage, on va voir comment ça se passe et si nos objectifs sont concordants.
Dans le communiqué d'hier, d'ailleurs, la déclaration de Galtier était apaisante. Il était un peu moins prolixe à l'occasion de cette conférence.
Exactement.
De presse,
et là, du coup, lui aussi, il doit se poser des questions parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines dans l'équipe, il disait notamment que le projet lillois était notamment avec lui, avec Campos et avec Gérard Lopez.
Je salue Baptiste Durieux, les réseaux sociaux, vous le savez, cette émission est filmée, c'est une émission interactive avec les nombreux messages également sur Twitter, le compte @RTLFoot. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous, beaucoup de messages évidemment, très pessimistes nos auditeurs, message de Thomas. Est-ce un rachat crédible? Je n'en sais rien, mais s'il y a perte de crédibilité, c'est surtout à cause du départ de Luis Campos. Profitons du classement actuel, ça va pas durer, nous dit Thomas. Message d'Antoine, ce rachat intervient non pas pour faire plaisir aux supporters, ni pour gonfler le palmarès du LOSC. C'est une évidence que le projet sportif va mourir et que l'effectif va être dégraissé, comme Monaco en 2017. Et puis message de Tristan, le LOSC ne voudra pas faire de vagues dans les mois qui suivent, soit, mais la saison prochaine, j'ai très peur. Très peur de ressentir encore une fois les effluves de la Ligue 2.
On fait le match, c'est votre émission, vous y participez, vous continuez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux évidemment pour donner votre avis. Avant la publicité, un rapide crochet au Stade Vélodrome, Marseille-Reims, Hugo Hamelin.
Eh ben, c'est toujours 1-0 pour nos amis rémois avec ce but contre son camp de Nagatomo à la 20e. Des rémois qui sont vraiment plus tranchants dans toute leur phase offensive et Marseille qui patine complètement. 30e minute de jeu.
A tout de suite, Hugo Hamelin en direct du Vélodrome. Après la publicité, quelle trace va laisser Gérard Rouillet disparu cette semaine? Karim Benzema est-il le meilleur attaquant de l'histoire du foot français? Oui, selon Zinedine Zidane. Et puis bien sûr, avant RTL Foot, avant 20h. Les tirs au but. À tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On refait le match avec Cindy Colmenares, Baptiste Durieux, Le Figaro, Dominique Séverac, Le Parisien aujourd'hui en France. Et pour RTL, Philippe Sansfourche. Toujours vos messages, évidemment, sur les réseaux sociaux. Le direct, Hugo Hamelin, le stade Vélodrome, Marseille-Reims. Toujours un but à zéro pour les Marseillais. Hugo.
1-0. But contre son camp de Nagatomo à la 20e.
Antenne ouverte, bien évidemment. Gérard Rouillet nous a quittés cette semaine. Gérard Rouillet était un ami de la maison pour avoir été notamment, mais pas seulement, le consultant sur la Coupe du Monde 1998 et la Coupe du Monde 2006. Un immense palmarès. Il a donné le premier titre au Paris Saint-Germain en 1986. On se souvient de cette année incroyable. 5 trophées, dont la Coupe UEFA. C'était en 2001 avec Liverpool qui, cette semaine, lui a rendu un hommage absolument formidable. 2 titres également avec l'Olympique Lyonnais avant qu'il ne devienne le conseiller du président Aulas. Il a été également le directeur technique national du foot français au moment où Aimé Jacquet et ses Bleus ont été champions du monde. Évidemment, c'est une information triste, mais quelle trace a laissé Gérard Rouillet au sein du football français? Il est dans le panthéon des Wenger, des Zidane, de garçons comme,
pas
comme ça.
Pas beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi à l'étranger. Hein. Il y a Zidane, évidemment, il y a Wenger. Il y a
Deschamps,
mais c'était en série B à la Juve, donc c'était pas tout à fait la même portée. Deschamps, il réussit surtout, il est champion du monde. Donc voilà, c'est ça qui est extraordinaire avec Didier Deschamps. Pour moi, la trace de Gérard Rouillet, elle est immense. À part grand joueur de foot, il a tout fait dans le football. C'est très rare d'avoir occupé tous les postes possibles. Vous avez cité manager, directeur technique national. Là, il était dirigeant à Lyon. C'est quand même incroyable. Et d'avoir eu cette réussite partout. Alors peut-être qu'en équipe de France, sa trace sera négative, puisqu'il est associé à l'échec de France-Bulgarie.
On va en parler également.
Mais sinon, ses équipes jouaient bien. Liverpool et Lyon, c'est une équipe qui jouait bien. Paris, en 86, c'est une super équipe qui reste 26 journées invaincue.
Bien sûr.
Et qui perd finalement lors d'un match remis à Lille pour une coupure d'électricité de 5 minutes. Donc pour moi, la trace de Gérard Rouillet dans le football français, elle est considérable.
La tâche, c'est 1993, évidemment. L'élimination à la dernière seconde. Mauvaise passe de Ginola qui ne gère pas son ballon. Kostadinov qui marque et l'équipe de France qui ne va pas au Mondial américain.
Ouais.
Jacquet était l'adjoint de Gérard Rouillet.
Oui, c'est un des plus grands fiascos de l'histoire du foot français. Et il le symbolise par cet échange, par cette affaire avec David Ginola, où on sent en fait que, comme tout le monde dans cette histoire, à un moment donné, il a un petit peu perdu les pédales. Ces mots ont peut-être dépensé sa pensée. Ça a marqué son histoire, celle du joueur aussi, parce que David Ginola, c'est quand même une blessure qu'il porte toujours en lui. Mais ça ne résume pas l'homme et sa personnalité. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai connu Gérard Rouillet professionnellement, j'avais forcément cette image-là, ce souvenir en tête, puisque je n'étais pas encore journaliste au moment en 93, et j'avais des a priori sur l'homme, et j'ai découvert quelqu'un aux antipodes, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement qui faisait du bien au foot, et moi j'avais plaisir à parler avec lui de jeu, de foot, d'histoire du foot, et respect total pour finir, on l'a dit, mais ce qu'il a fait à Liverpool,
bien sûr,
à l'époque à laquelle il l'a fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entraîneurs
2001,
étrangers,
2001.
Mais les entraîneurs étrangers à Liverpool, on parle de quel club, on parle peut-être d'un des plus grands clubs du monde, et peut-être du plus grand club anglais de l'histoire. Ce qu'il a fait là,
et il
après
a fait Steven
Gerrard, la période qui avait précédé, où c'était une catastrophe, hein, Liverpool,
bien sûr,
se souvenir de d'où il venait.
Il a professionnalisé le foot anglais.
C'est extraordinaire.
Avec Wenger, ils ont professionnalisé le foot anglais.
Alors Philippe, permets-moi de te dire que j'étais moi journaliste à cette époque-là, que j'étais dans les couloirs du Parc des Princes, parce qu'on pouvait aller à peu près partout.
Je ne l'avais pas dit. Hein,
j'étais avec l'ami Pierre Loubas, l'Europe 1, et on n'a pas vu le but de Kostadinov, mais on a compris, un silence assourdissant, voilà, hein, silence assourdissant. On a compris que les Bulgares avaient marqué. Et ensuite, ça a été évidemment, pour les interviews, une véritable catastrophe. Et la petite phrase, c'était le lendemain en conférence de presse de Gérard Rouillet, c'est Ginola a commis un crime contre l'équipe. Il faut bien dire que...
Pas le centre, hein.
Non.
C'était pas le centre, hein. C'était l'interview qu'il avait donné.
Et voilà. Alors, l'interview est Permettez-moi de vous dire modestement que j'étais à Clairefontaine au moment où Ginola, au micro de RTL, balance qu'il en a marre de ne pas être titulaire, que c'est de la faute des Marseillais. Et à ce moment-là, le ton monte, évidemment, car dans la salle où se trouvait le billard et la petite pièce où les sélectionneurs donnaient leur conférence de presse, ça résonne. Et les journalistes de la presse écrite, Dominique, commencent à arriver. Il y en a plein, hein. Mais j'ai le souvenir, Pierre Ménès notamment, qui travaillait pour l'équipe à ce moment-là, arrive à pas feutrer comme cela, et la déclaration évidemment de David Ginola, de dire les Marseillais ne souhaitent pas que je joue, il y a un clan dans cette équipe de France, c'est ce qui avait mis le feu aux poudres.
Et donc le crime, c'est d'avoir dit cette phrase-là,
exactement.
Il n'a jamais évoqué le centre raté.
Exactement, il fallait le dire. Baptiste Després.
Philippe et Dominique ont tout dit sur sa carrière, et puis la trace indélébile qu'il laisse au sein du football français et européen et anglais notamment, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Philippe sur le côté, sur ses interviews ou les rencontres qu'on pouvait avoir avec lui. C'était quelqu'un de construit, d'intelligent. Il y avait quelque chose, il y avait de la matière. Alors, ce n'est pas toujours le cas avec des entraîneurs. Et là, c'était vraiment profond. Il y avait quelque chose. Et je me souviens de certaines phrases qui sortaient à ces interviews, de nombreuses interviews. Chaque fois, il disait « le talent, c'est l'art du rebond » ou « une grande équipe ne perd jamais deux fois ». On l'a dit avec la Bulgarie, c'est le meilleur exemple. Le talent, c'est l'art du rebond. Il a énormément et très, très bien rebondi.
Cindy Colmenares était un peu plus jeune en 1993.
T'étais pas née.
J'étais pas née. Si, j'étais quand même. Non, mais au fait, est-ce qu'on retient, nous, en tout cas, il y a un journal argentin, La Nation, qui lui a fait un hommage et a parlé de lui en tant qu'élémite du football français. Et il est vrai qu'il a beaucoup brillé, surtout à l'étranger, avec Liverpool. Il ne faut pas oublier, il a été de 1998 à 2004. Mais c'est surtout dans la meilleure période à Liverpool, c'était en 2001. C'est là où Liverpool était vraiment à l'apogée, parce que c'est lui qui lui a donné tout ça, les plus belles générations dorées de Liverpool. Et en parallèle, c'est là qu'il commence à avoir ses soucis de santé. Et là, je me dis, quelque part, on le sent, c'est quelqu'un qui a donné tellement tout au football qu'il a dû arrêter sa carrière sous conseil médical parce que le football lui prenait peut-être un peu trop. Et il a continué quand même malgré tout à être conseiller notamment de Jean-Michel Aulas.
Mais oui, parce que c'est un homme de réseau également. Il a le goût du pouvoir. Il avait le goût du pouvoir.
Mais vous avez dit qu'il avait gagné 5 titres avec Liverpool et il a rendu Michael Owen ballon d'or. Hein, oui. Donc c'est indirectement. Donc c'est quand même extraordinaire.
Mais quand on voit cette semaine l'hommage, il y avait quoi? Il y avait 2000 ou 3000 personnes
à Liverpool.
On avait l'impression qu'ils étaient 80 000. Et ça plante le décor quand même. Ça vous dit ce qu'a fait Gérard Rouillet. Et comme l'a dit Philippe, ils en ont vu passer quand même des managers ou des entraîneurs à Liverpool.
Une vision du foot aussi, une capacité à se remettre en question. Ses collaborations avec le groupe Red Bull ces dernières années montraient bien qu'il était, il restait à la pointe de l'évolution du foot d'aujourd'hui. Non, c'est effectivement un grand homme du foot.
Intelligent, connaissance du foot, goût du pouvoir et personnage complexe, disons-le également.
Moi, je me souviens que, par exemple, il a maintenu Raymond Domenech quand il était directeur technique national en 2008. Il a maintenu Domenech après l'Euro, le fiasco de l'Euro 2008, parce qu'il préférait avoir un sélectionneur faible sur lequel il pouvait avoir une emprise. Et donc, ça a conduit 2 ans après à Meissner. Alors qu'on aurait pu, dès 2008, changer et Frédéric Thiriet l'a
répété. Là, il n'était pas seul sur cette histoire.
Oui, il n'était pas seul.
Il y avait quand même un complot anti-France 98 qui voulait tout sauf...
Mais comme l'a dit Frédéric Thiriet, en 2008, il a raison, il voulait Deschamps à la tête de l'équipe de France.
Une pensée en tout cas à Gérard, une pensée à sa famille, Isabelle, à son frère également. Gérard Houillet qui nous a donc quitté cette semaine. 19h39, on tourne une page de publicité et ensuite on parle de Karim Benzema. Vous allez pouvoir fourbir vos armes. Est-ce que c'est véritablement le meilleur attaquant du football français, de l'histoire du football français?
Du monde.
Ou est-ce que Zinedine Zidane a assuré le service après-vente de Karim Benzema, qui lui tire en ce moment quand même, ou retire des épines du pied? A tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Les 20 dernières minutes d'On fait le match en compagnie de Cindy Colmenares, Baptiste Després, Philippe Sanfourche et Dominique Sévrac. Et Hugo Hamelin également. On approche tout doucement de la mi-temps, de la pause, Hugo.
Il reste 4 minutes. Grosse occasion pour l'Olympique de Marseille à l'instant avec une frappe de près de Pipa Benedetto, mais bien stoppé par le gardien rémois. C'est toujours Reims qui mène 1-0 grâce à un CSC de Nagatomo à la 20e minute. On approche effectivement de la mi-temps. Marseille qui n'a jamais perdu de match d'affilée depuis qu'André Villas-Boas est là. Donc voilà, Marseille qui s'éloigne du podium, hein, parce qu'ils auraient pu, ils sont quatrième et à 3 points derrière Lyon. Et donc là, forcément, ce serait une énorme contre-performance de perdre face à Reims ce soir au Vélodrome.
Et ça pousse ou ça, c'est timide au niveau
On va dire surtout que Reims joue très bien. On voit un Zenelli débordant d'énergie sur le côté gauche de l'attaque rémoise. Avec, ils exploitent vraiment toutes leurs attaques et c'est dangereux quasiment à chaque fois. Alors que Marseille a vraiment du mal dans la construction, même si Thauvin et Payet ont l'air plutôt en forme.
Tu nous appelles pour la mi-temps ?
Très bien.
Karim Benzema est-il le meilleur attaquant de l'histoire du football français ? Tout est parti d'une question posée par un confrère espagnol après le match contre Bilbao où Benzema a marqué 2 buts. Et la réponse a été claire. Oui, c'est le plus grand attaquant de l'histoire du football français.
D'abord, joyeux anniversaire à Karim Benzema.
Et joyeux anniversaire à Cindy Colmenares également. Elle me tend la perche.
Ah, formidable.
Elle est futée.
On sera pas l'antenne. On peut dire un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé aussi. Demain.
Ah bah oui, ça valait du vent.
Cindy est-elle la meilleure chroniqueuse de l'histoire de...
On va demander à Zidane.
On va demander à Zidane.
Non, mais c'est une bonne remarque que tu fais par la papa pour la moi. Mais
dire, c'est il est vrai.
Le gâteau, c'est pour ce soir.
Non, mais par rapport à Parapola Benzema, parce que c'est vrai qu'il dit c'est le meilleur attaquant, mais voilà, il faut préciser. Il est effectivement le meilleur attaquant français du Real Madrid.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas comme ça que je l'ai compris, moi, en tout cas.
Non, il a bien dit ce qu'il a dit, mais il fait aussi de la, c'est de la communication pour ce club. Et en plus, il ne faut pas le négliger qu'en ces moments, il y a Benzema qui est en train de vraiment pas sauver Zidane, mais il est vrai que c'est la première fois que le Real Madrid finit premier de son groupe avec les doublés qu'a fait Karim Benzema. Donc, sur l'histoire du Real sous Zidane.
Non, mais soyons clairs. Au Real Madrid, il fait Benzema une carrière extraordinaire.
L'entraîneur dit toujours ça de son joueur, de ses joueurs phares. Mais il n'est pas exclu de penser que Zidane le pense vraiment. Un, parce que déjà, il n'a pas toujours une relation fantastique avec Thierry Henry, qui est champion du monde et que certains vont placer au-dessus de Karim Benzema. Jean-Pierre Papin, éventuellement, qui a été Ballon d'Or en 91, pourquoi pas. Mais il a une relation très filiale avec Karim Benzema. Il sait ce qu'il lui doit, chacun sait ce qu'il doit.
On n'est pas sur les sentiments, là, Dominique. On est sur la qualité intrinsèque d'un joueur avec son palmarès.
Pour répondre à la question, je ne peux pas comparer, mais je peux vous dire que Karim Benzema, depuis au moins 5 ans, il progresse chaque année. Ouais. Alors que c'est très rare à cet âge-là. En général, on décline un peu. Cristiano Ronaldo est parti. Et ben, je ne vois pas. Il a eu l'affaire Benzema à Valbuena. Il n'a plus l'équipe de France. Il a eu des motifs dans sa vie pour sombrer, ou l'équipe de France qui n'est plus là, ou l'opinion publique française qui n'a pas toujours été tendre avec.
Alors la question, je la pose différemment. Est-ce qu'on peut être le meilleur attaquant de l'histoire du football français sans avoir fait une belle carrière en équipe de France?
Il a 88 sélections, c'est pas rien.
Égalisation.
L'égalisation marseillaise, elle est signée. Florian Thauvin, encore une fois, sur un très joli mouvement, le centre deuxième poteau de Valentin Rongier, la tête, la remise de Dario Benedetto. C'était vraiment au ras du poteau. On ne savait pas si Florian Thauvin allait réussir à remettre ce ballon dans les cages face à un but vide. Mais il a réussi à égaliser juste avant la mi-temps. On était dans le temps additionnel même de cette première mi-temps. Un partout entre Marseille et Reims. Désormais, voilà Valentin Rongier pour Dario Benedetto, il n'est pas hors jeu. Et cette petite tête pour Florian Thauvin.
Le suspense est relancé et même préservé. Ce sera d'ailleurs une seconde période que vous pourrez suivre à partir de 20h dans RTL Foot. Alors je repose ma question, est-ce qu'on peut être le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'histoire du football français sans avoir eu une belle carrière en équipe de France ?
Nous, il ne profite dans son pays, comme on dit. Voilà. Et je pense que ça, c'est ce qui reflète un peu la carrière de Benzema. Après, moi, j'aurais plus tendance à dire un papin, parce que Ballon d'Or, et c'est quand même pas n'importe qui gagne un Ballon d'Or. J'aurais tendance à dire également Thierry Henry, parce qu'il a une excellente carrière internationale à Arsenal notamment, donc voilà, et puis en équipe de France.
Baptiste Desprez.
On peut faire la comparaison avec, je compare pas Lionel Messi et Karim Benzema en termes de talent, mais sur l'impact en sélection nationale, je pense que Lionel Messi, Diego Maradona, il y a peut-être match aussi au niveau de la sélection nationale. Donc ça prouve aussi que tu peux quand même être un grand joueur malgré des passages compliqués en équipe nationale. Après, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut répondre objectivement à la question? Moi, je ne sais pas si on arrive à répondre objectivement. C'est que de la subjectivité, finalement.
Mais d'ailleurs, il est étonnant qu'il ait répondu de cette façon-là, Zinedine Zidane, parce qu'on lui poserait la même question, et ça a déjà été le cas. Quel est le meilleur numéro 10 ? Platini, Zidane tous les joueurs vous diront que les comparaisons...
Sont odieuses.
Voilà, il n'y a pas de comparaison.
Ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas la même période, donc, c'est les mêmes partenaires.
Donc, et c'est tellement difficile.
Donc, il aurait pu dégager en touche, mais il n'a pas dégagé en touche. Ça veut dire quand même qu'il fait le service après-vente pour un joueur.
Après, il y a deux façons de voir la chose. Il y a l'aspect purement footballistique, le joueur. Et là, j'ai tendance à penser comme Dominique, c'est-à-dire que Zidane, qui connaît évidemment le jeu mieux que quiconque, voit déjà le joueur exceptionnel qui était Karim Benzema il y a quelques années et le joueur qu'il est devenu en s'améliorant au fil des ans. Il a perdu aussi du poids, il est plus affûté aujourd'hui qu'il était il y a 3-4 ans. Il est extraordinaire. Il faut, franchement, nous on a la chance de commenter, de voir des matchs au stade de Karim Benzema. Ça fait partie des joueurs dont on prend la dimension quand on les voit réellement. Et même, j'ai encore le souvenir du match où le Real avait été nullissime au Parc des Princes en Ligue des Champions. Ils prennent 3-0 en début de saison. Mais il porte l'équipe à bout de bras. Il fait des appels en permanence. Il a une intelligence de jeu, de positionnement, de replacement. C'est un joueur exceptionnel d'intelligence et de finesse technique. Donc à ce niveau-là, moi, j'aurais tendance à dire ça, comme ça, uniquement sur la sensation, le feeling. Moi, Karim Benzema me transporte plus sur un terrain que Thierry Henry ne le faisait. Mais ça, c'est très personnel. Par contre, et c'est là où je trouve que Zidane fait un petit peu une erreur de communication en allant sur ce terrain-là, c'est que lui, qui mieux aussi que Zinedine Zidane, peut savoir quelle est la place d'une sélection, la force, la puissance que ça a à la fin dans un palmarès, d'avoir remporté des grands titres avec sa sélection. C'est ce qui te positionne un joueur dans l'histoire sur le plan international. Oui, et faire cette déclaration en connaissant la situation de Zinedine Zidane, de Karim Benzema, je trouve que c'est un petit peu déplacé.
C'est pas Karim Benzema qui a renoncé à la sélection ou c'est pas Deschamps qui a renoncé. On sait très bien qu'il ne peut plus revenir à cause d'un problème personnel avec le sélectionneur, qui en général n'en a jamais, puisqu'il a rappelé Tembe Larfa, il a rappelé Gignac, il a rappelé Rabiot. Valbuena, Rabiot, il a rappelé tous les gens avec qui il a pu se fâcher en club ou ailleurs. Donc, il sait très bien que... Tout le monde sait très bien pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France. Et tout le monde sait que sportivement, Karim Benzema, il a tous les jours sa place avec Griezmann.
Bien sûr. Mais ça, personne ne le conteste. Bah, immense joueur, donc, mais pas.
Mais il lui manquera toujours le palmarès.
Avec un état d'esprit qui lui a coûté peut-être une carrière encore.
Son état d'esprit, il n'a jamais posé problème dans un vestiaire.
Non, pas l'état d'esprit dans les vestiaires, mais justement, vous parliez de la communication qu'il faisait par rapport à Deschamps, l'équipe de France, les tweets, etc.
Je pense qu'il a eu à un moment donné pas les bonnes personnes autour de lui. Quand il a dit dans Marca que Deschamps avait cédé une partie raciste de la France, c'est une phrase qu'on lui a dit de dire. Karim Benzema, il n'a pas théorisé en se réveillant dans cette phrase, on lui a dit de le dire. Ouais. Et cette phrase-là, c'est une erreur.
C'est une erreur qui aurait pu être réparée. Et c'est là aussi, parce que je vais plus loin sur le cas Zinedine Zidane, moi je persiste à croire que Zinedine Zidane, ce qu'il représente dans le foot français, si aujourd'hui Zinedine Zidane avait créé les conditions du rapprochement entre Didier Deschamps et Karim Benzema, c'est peut-être le seul sur cette terre qui est en capacité de le faire. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ?
Le coup, il ne le fera plus maintenant, parce que c'est une pierre dans le jardin de Didier Deschamps. Les
Deschamps et Zidane n'ont jamais été exceptionnels.
On va dire l'intérêt supérieur du football français, de la sélection, de son joueur aussi, de ce que peut représenter la sélection pour un joueur, c'est une vraie interrogation. J'aurais aimé, à un moment donné, que Zinedine Zidane s'investisse un petit peu plus dans cette opération.
Dans le camp Benzema, je mets Zinedine Zidane, Philippe, et je pense que le camp Benzema a pensé qu'il était tellement fort que ça serait naturel son retour, que ça finirait par s'imposer à Deschamps.
Mais justement, l'intelligence de Zinedine Zidane aurait dû prendre le dessus sur l'entourage du joueur. On parle de Zinedine Zidane.
Ça restera le gros point noir de sa carrière. Il lui manquera toujours ce côté-là. Alors après, il a flambé au Real Madrid. Ça fait 10 ans qu'il en a vu passer des tas des attaquants. Aujourd'hui, il porte le Real, vous l'avez dit, sur ses épaules. Mais il lui manquera ça quand même malgré tout.
Non, puis là,
et nous aussi, ça nous manque. Parce que la frustration, elle est là.
Aujourd'hui, c'est
Griezmann, le
meilleur attaquant français,
Mbappé
au-delà de l'histoire.
Et Karim Benzema dans cette équipe avec Pogba, Kanté.
Tu n'aurais peut-être pas le Benzema du Real Madrid dans l'équipe de France. La comparaison que tu reproches à Zidane et qu'il aurait pu éviter, et il me semble qu'il ne faille pas la faire, ou en tout cas se projeter dans l'idée qu'avec Benzema, l'équipe de France serait encore largement supérieure.
Il est possible que demain, on enlève Giroud.
En tout cas,
ça
ne serait pas
marrant. Eh bien, on ne sait pas.
C'est la magie du foot. Hein.
Il n'a jamais été excellentissime, Benzema, en équipe de France.
Il n'avait pas les mecs qu'il y a aujourd'hui, hein, si je peux me permettre.
500 matchs, 259 buts, 4 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi, 3 Supercoupes, 4 Coupes du monde des clubs. Avec Lyon, 4 titres de champion, 2 trophées, 1 Coupe de France, 81 sélections. C'est là que le Babelès, 81 sélections, 27 buts. Mais Thierry Henry est champion du monde.
Eh oui.
Thierry Henry est champion du monde, Thierry Henry une statue à Londres, Thierry Henry a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Donc là aussi, on parlait de subjectivité, objectivité.
Un titre avec Monaco, deux titres avec Arsenal.
C'est pas un scandale de dire que Thierry Henry est aussi le meilleur attaquant de l'histoire de
Un titre avec Monaco, deux titres avec Arsenal, trois cups, deux titres avec Barcelone, une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe avec Barcelone. Et je dois en oublier
meilleur
encore.
Buteur en activité, meilleur buteur pour l'instant de l'équipe de France.
Et personne ne me parle de Raymond Coppa. Hein.
Mais bien sûr,
Fontaine.
Et Raymond Coppa.
Et même de Michel Platini, parce que même si Michel Platini était un 10, son ratio de buts. Qui va remettre autant de buts qu'il en a mis à l'Euro?
En comparaison des parisiens, en vérité.
Voilà, bien sûr.
Les réseaux sociaux,
en tout cas,
Baptiste Durieux.
Benzema est un grand joueur.
Benzema est-il le meilleur attaquant de l'histoire du football français? Et il continue de progresser.
Absolument. Beaucoup de messages toujours sur Benzema. Celui de Guillaume. Si Benzema était champion du monde, trois petits points, il n'y aurait même pas de débat. Plus grand attaquant français et surtout l'un des plus beaux palmarès au monde, nous dit Guillaume. Message de Laurent, dans sa régularité, son évolution, ses progrès, sa longévité dans le plus grand club du monde, ce Real Madrid qu'il porte aujourd'hui à bout de bras. Oui, Benzema est le plus grand. Et message de Johan qui rêve un petit peu, vous allez voir, tout ce qui vient de Zidane pour moi ne doit pas être remis en cause. C'est une règle de vie, mais plus sérieusement, j'aimerais avoir ce débat en juillet prochain, quand Benzema marquera le but décisif sur une passe de Giroud pendant la finale de l'Euro. Effectivement, c'est une utopie, grosse utopie.
Utopique, effectivement. Merci Baptiste Durieux. Les tirs au but, sans transition, comme dirait l'autre, à 19h53, c'est la mi-temps, hein, c'est parti. Le rappelle au Vélodrome. Hein, je ne sais pas si Hugo est avec nous, mais mi-temps entre Marseille et Reims, un but partout, seconde période à suivre, bien sûr, à partir de 20h sur l'antenne de RTL. Les tirs au but, vous attendez le coup de sifflet, attention, hein, de l'arbitre, avec des sujets, je le rappelle, qui ne vous ont pas été présentés, donc vous n'en connaissez pas la teneur. Et le plus rapide, ou la plus rapide, évidemment, s'empare du micro après le coup de sifflet pour tenter une réponse pertinente. Et elle sera forcément
pertinente.
C'est son
meilleur fer, moi je la laisse gagner.
Le retour de Laurent Blanc. Le retour de Laurent Blanc. C'est officiel depuis cet après-midi sur un banc d'entraîneurs après 4 saisons blanches. Son départ du Paris Saint-Germain, on s'en souvient. Il a signé pour le club du Qatar d'Al Rayyan. Alors, est-ce une mort douce ou une relance de sa carrière?
Alors, pour moi,
non.
C'est...
éliminé. Maintenant, j'élimine.
C'est surtout un gros gâchis.
On attend le coup de sifflet.
C'est surtout un gros gâchis. Ça fait 4 ans qu'on attendait qu'il retrouve un banc. On l'a annoncé un petit peu partout. Il a refusé ou non certaines propositions. Et on s'attendait à autre chose. Aujourd'hui, alors on ne va pas dire qu'il court après l'argent parce qu'il a quand même eu des émoluments qui étaient conséquents à sa sortie du Paris Saint-Germain. Mais là, sportivement, très franchement, il n'y a aucun intérêt à être entraîneur au Qatar. C'est quand même un niveau de jeu qui est quand même assez faible, parlons-en. Mais après, à côté de ça, c'est sur le côté ambition, sur le côté quand même, Laurent Blanc, c'est un super entraîneur de foot. Quand on voit la patte qu'il a fait, notamment avec les Girondins de Bordeaux, avec le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, c'était pas si mauvais que ça. Pour moi, c'est un énorme gâchis.
Séance de rattrapage, c'est Nicole Ménarès.
Bah, il amène quand même les PSG 3 fois en 8e. Donc oui, c'est quand même un excellent entraîneur, mais il est vrai qu'on s'est dit tout ça pour ça. Il s'est passé quand même 4 années où il aurait pu avoir un meilleur projet. Et là, on sait que ça va surtout servir au Qatar, puisque niveau communicationnel, puisque c'est ça l'histoire, ils vont pouvoir faire une belle communication sur le fait qu'il s'est blanc avec eux. Mais il est vrai qu'on s'attendait peut-être à quelque chose de mieux. Après,
il
faut
jamais
pas... critiquer.
J'imagine qu'il n'y a pas de sous-texte.
J'imagine qu'il y a un coup d'après, Christian. J'imagine
le coup d'après.
Je ne sais pas, mais...
Est-ce que vous êtes davantage vu à l'international au centre d'entraînement de la Genolière s'il avait signé pour Nantes ou à 2 ans de la Coupe du Monde au Qatar, signé pour un club qatari et ensuite se relancer médiatiquement.
Xavi qu'on annonce sur le banc de Barcelone si certains candidats le 23 mars ou le 24 janvier, remportent la présidence du Barça, Xavi est là-bas, il est au Qatar. Donc pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a un coup d'après, je ne le connais pas.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a attendu longtemps et que rien n'est venu. Donc on peut pas lui reprocher de tenter quelque chose. Hein, je veux dire, vous citiez la Genolière,
mais avec Philippe, rien n'est venu à la hauteur de ses attentes. Parce qu'il a eu zéro proposition en 4 ans.
Qu'on finit par diminuer. Au début, il voulait le Real Madrid.
Il a plus ou moins décliné.
Oui. Non, mais au début, il voulait Barcelone. Maintenant, il était prêt à accepter Lyon il n'y a pas longtemps. Vous voyez, entre Barcelone et Lyon, il y a un gap quand même.
Oui. Enfin, Lyon, c'est pas mal non plus.
Non, mais c'est bien. Il a perdu d'ailleurs.
Et s'il avait pris Lyon, d'ailleurs, il a perdu. On n'a pas voulu de lui. Hein.
Il a perdu. Il a perdu. C'est Rudy Garcia qui a été pris.
Voilà. Et Nantes, voilà. Mais la lisibilité. La question est de savoir, en termes de lisibilité, pour relancer une carrière. Je ne crois pas qu'à son âge, il ait tiré à un trait sur sa carrière d'entraîneur.
C'est pour
en
ça
termes
que...
de lisibilité, Nantes ou le club du Qatar.
Il y a encore quelques temps, il disait qu'il était déçu par le monde professionnel, qu'à la limite, il voulait se réinvestir dans le foot amateur. Il est assez surprenant, en tout cas, ce choix.
Mais est-ce que c'est un vrai passionné
de
football, d'ailleurs?
Ah oui, oui.
Est-ce que c'est un vrai passionné de football?
Oui, il ne faut pas qu'on mette en doute.
Sur le fait qu'il regarde les matchs tous les week-ends, etc. Je ne suis pas sûr.
Non, mais je veux dire, je pense qu'en fait, les gens, ils vont avoir tendance à se dire effectivement que ce n'est pas un vrai passionné puisqu'il il est prêt à accepter pour l'argent, etc. On ne sait pas ce qu'il y a comme plan ou comme projet derrière sa tête. Et surtout, quoi qu'il en soit, il faut qu'il se remette dans les bains. Il ne pouvait pas continuer encore je ne sais pas combien d'années. Il n'est pas vieux non plus. Il fallait absolument qu'il aille.
Il y a toujours ce débat un peu sur ça. Est-ce qu'il est travail? Est-ce qu'il aime la tactique? Tout ça. C'est un vrai fondu de foot, parce que je le connais un petit peu. C'est un vrai fondu de foot. Parce qu'après, il est là à décortiquer le jeu du Liverpool, le club et les changements que Klopp a fait à la 87e minute. Peut-être pas autant que Deschamps peut le faire sur sa tablette à regarder 157 matchs pendant un week-end. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un amoureux du foot.
Le temps nous presse, les amis. 643, que signifie pour vous le chiffre 643? Normalement, Cindy Colmenares devrait pouvoir répondre à cette question. Coup de sifflet.
Ah oui, Messi.
Messi
ce soir.
Oui. Dominique Serra, 643 buts.
On va pas dans sa carrière.
En club.
Goal, en club. Goal, goal,
goal. Record égalé avec Pelé, Santos.
Il doit être bon ce Messi pour en arriver là.
Parfois, c'était cette stat qui ne sert à rien. Celle-là, elle est parlante. Celle-là, elle est parlante.
Celle-là, elle est parlante. De symbole.
Ça, c'est une stat parlante.
Allez, et le dernier tir au but, le temps presse donc, et le tir au but suivant, le dernier en tous les cas, c'est toujours en rapport à ce que nous allons vous proposer, RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, Quentin Vasselin, avec le match notamment qui va opposer à 21h Nice-Lyon. Alors, les spéculations les plus folles, ou pas d'ailleurs, pas si folles que ça, annonce de nouveau Memphis Depay sur le départ dès le mercredi. Mercato d'hiver, faut-il le retenir à tout prix, oui ou non? Oula.
Et il y a réflexion quand même. Il y a réflexion parce que forcément, si vous êtes un président de club comme Jean-Michel Aulas, peut-être que vous n'allez pas cracher sur 20 millions d'euros qui vont tomber au mois de janvier avec, on va le rappeler, le Covid, le Mediapro, etc. Et sportivement, aujourd'hui, Lyon a quand même la meilleure équipe de France derrière le Paris Saint-Germain. S'ils veulent aller chercher la Ligue des Champions, vous serez toujours meilleur avec Memphis Depay. Donc...
C'est même plus que ça, c'est que c'est peut-être l'année historique pour essayer de décrocher le titre de champion de France. T'as plus de chances de le décrocher avec Memphis Depay en fin de parcours que sans.
Mais c'est une question d'argent. Veut-il rester, lui.
Baptiste a parlé de 20, moi j'ai plutôt entendu 5 ou 10. À 20 j'y vais, à 5,
oui.
Je le garde.
Et la question qu'il faut poser d'ailleurs, c'est a-t-il envie de rester à l'Olympique Lyonnais?
Il a contre.
Fin de Si on fait le match. Merci Cindy Colmenares et bon anniversaire une nouvelle fois. On ne demande jamais l'âge à une jeune femme, mais
non,
il y aura combien de bougies sur le gâteau?
Une trentaine.
Merci Baptiste Després, Le Figaro. Merci à
bonne
Dominique
fête, Christian.
Le Parisien aujourd'hui en France. Bonne fête
à tous.
Ceux qui ne reviendront pas d'ailleurs, mais enfin, on se retrouvera en 2021. Merci Philippe Sanfourche. Merci à Baptiste Després, à Baptiste
Durieux.
Durieux, bien
Durieux.
Sûr. Comment j'allais
dire, il y a beaucoup de Baptiste. Hein.
L'ami Baptiste Durieux
talent,
pour ses messages. Merci à vous tous pour votre fidélité. 20h, 23h, RTL Foot, avec notamment le match entre l'équipe de Nice et celle de Lyon, et la seconde période entre Marseille et Reims à la mi-temps, un but partout. Très bonne nuit, très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao. RTL.